faudrait avoir en tête, c'est les basiques en fait de l'article 1 de la loi 1901, c'est-à-dire que l'association est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes mettent en commun du temps, de l'énergie, etc., dans un but autre que de partager des bénéfices. Ça, c'est vraiment la base. Et du coup, là-dedans, ce qu'on traduit, c'est que d'abord, l'association, c'est bien un projet collectif. On fait à plusieurs, on s'associe. On peut pas s'associer tout seul, il y a un truc impossible à cet endroit-là. Et donc, créer une association, ça veut dire créer un groupe, créer une équipe, hein, créer un collectif. Hein. Voilà. Au-delà d'avoir une bonne idée, au-delà d'avoir une compétence, au-delà d'avoir des choses à partager, c'est le fait de les partager, de les créer, de les mettre en œuvre ensemble, qui est important.
Et concrètement, d'ailleurs, légalement, pour créer une association, il faut être au moins deux, c'est ça ?
Alors légalement, il faut être deux minimum. On ne peut pas s'associer à moins de deux, ça c'est la base. Après, on est bien d'accord qu'une association qui vit avec deux personnes, elle n'a pas le même impact, la même puissance, la même possibilité d'action qu'une asso où on est 5, où on est 10, où on est 25 au démarrage. Il y a un économiste au XVIe siècle qui disait qu'il n'y a pas d'autre richesse ni de force que celle des hommes. Et quand on crée une association où on n'a pas au début d'une expérience d'argent, de moyens, etc., et ben c'est les gens qui font cette force, c'est les gens qui font la possibilité d'agir. Donc il y a toujours deux réponses en fait qui sont apportées, comme ça, quand les gens viennent me voir en me disant « mais normalement on est bien d'accord, c'est juste deux qu'on peut créer ». On dit « oui, légalement il y a une réponse qui est très juste à cet endroit-là, c'est bien deux ». Mais d'un point de vue pratique, les associations qui peuvent agir, être puissantes et faire des choses, ils restent pas à deux, ils sont 30, ils sont 40, c'est toujours comme ça qu'il faut penser les choses, donc très rapidement d'aller chercher ces gens-là. Après, il y a deux façons de s'y prendre, soit les gens ils vont se disent ok, mais d'accord, on va créer d'abord à deux et puis après on verra bien. Et il y a une manière de s'y prendre qui est de dire ok, d'abord on crée un collectif, on voit ce qu'on fait ensemble, et ensuite, quand il y a besoin, à ce moment-là, on va créer la structure administrative qui va porter le projet.
D'ailleurs, à l'inverse, les gens ne le savent pas toujours, mais on n'est pas obligé d'avoir qu'un seul président quand on crée une association.
Après, c'est une manière de s'organiser. Ça, c'est les statuts qui racontent ça, parce qu'à un moment donné, quand effectivement la démarche de création elle va passer par un truc administratif, qui est le dépôt des statuts en préfecture. Et ces statuts, c'est ni plus ni moins que ça décrit la manière qu'a ce groupe de s'organiser. Et dans la manière de ce groupe de s'organiser, tout est possible en fait. On peut avoir 2, 3, 5 présidents, on peut fonctionner en assemblée générale permanente, on peut fonctionner avec pas de bureau, mais uniquement des commissions. Il y a une grande liberté d'organisation en fait dans l'asso. Donc président, secrétaire, trésorier, après ça a l'avantage de causer à tout le monde. C'est un truc qui est habituel, on va dire. 9 associations sur 10 sont organisées comme ça, et quand on n'a pas envie de trop se poser ces questions au début, bah du coup c'est quand même bien pratique d'avoir cette organisation-là. Ceci étant, très vite, ça ne correspond pas du tout au mode de fonctionnement des collectifs. Et effectivement, on peut fonctionner à 2, 3, 4 présidents, des binômes, des commissions, tout est possible, et ça, on a beaucoup, beaucoup de formes extrêmement différentes d'organisation.
Au bout d'un moment, ou rapidement, il arrive que l'association devienne employeur. Quand on crée une association dans l'idée de créer son activité, qu'est-ce qu'il faut savoir avant ?
Qu'on se regroupe dans un but autre que de partager du bénéfice. Ça, c'est la fin de l'article 1er de la loi 1901. Et donc, ce que ça veut dire, très concrètement, en termes d'organisation, c'est qu'on ne peut pas être à la fois à la gestion de cette association, à la direction, au pilotage de cet asso, et en même temps en retirer un revenu. En même temps, on retirait du bénéfice. Voilà. Sinon, on essaie directement l'article 1er de la loi qu'on est en train de tordre. Ce qui veut dire que quelqu'un qui va en tirer un revenu, un salarié, ne peut pas être dans le conseil d'administration. Ne peut pas être président. Quelqu'un qui souhaite intervenir en tant que prestataire régulier ou quasi, ne peut pas être dans le conseil d'administration. Quelqu'un qui va vendre des choses. Je sais pas, je pense par exemple à des œuvres, quand il y a des collectifs d'artistes qui se montent, on ne peut pas vendre hein, dans le cadre de l'association et en être le dirigeant. Voilà. Donc il y a plein de manières de tirer du revenu, louer des services, vendre. Et c'est incompatible en fait avec le fait de se retrouver président ou dans le conseil d'administration, en tout cas dans le groupe qui va piloter l'asso.
Et alors, quand vous vous trouvez face à quelqu'un qui veut créer son activité via une association, puis finalement qui se rend compte de ce que vous expliquez, qu'il ne pourra pas vraiment piloter l'association, qu'est-ce que vous préconisez du coup à la place ?
Soit on préconise de partir comme ça, de partir sur ces bases-là et de partir dès le démarrage sur ces bases-là. C'est-à-dire que la personne qui va créer l'association, en fait, ne va pas créer son poste, mais va surtout créer son employeur. Et donc, du coup, ça change un petit peu la posture. Les créateurs, là, dans ces cas-là, on les invite plus à se mettre comme animateur d'un collectif, organisateur d'un collectif qui va devoir se structurer, penser un projet avec, sur la base des idées que le créateur a apportées, bien entendu, et construire, en fait, le projet avec eux pour instaurer cette confiance. Parce qu'après, il est bien entendu que c'est ce groupe-là, ce collectif, cet asso, qui va devoir assumer la responsabilité du salarié. Donc de lui fournir du travail, de lui fournir du salaire, de respecter le droit du travail, hein, d'être un bon employeur, du coup de se retrouver vraiment dans un truc de petite entreprise. Donc soit on construit dès le démarrage cette relation de confiance et cette posture-là, ce qui se passe souvent, soit il y a d'autres statuts qui sont envisageables, l'auto-entrepreneur, mais bon voilà, ça a ses limites, hein, soit le travailler dans le cadre de coopératives d'activité et d'emploi. Voilà, c'est aussi intéressant, certaines personnes s'y retrouvent, d'autres pas, essayer. Soit de trouver un autre employeur qui va permettre, je sais pas, dans le cas d'associations multi-activités, de centres sociaux, etc., de permettre de développer une activité en étant salarié d'une tierce organisation. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et souvent, en fait, ce qu'on conseille par-dessus, c'est de mener les deux types d'approches en même temps. C'est-à-dire qu'en tant qu'auto-entrepreneur ou dans une CAE, ça permet de développer, de tester une activité, de développer sa compétence, de se faire connaître, de se faire un réseau, mieux cerner les questions de prix, de coûts, de tarifs, de faisabilité de l'activité. Et puis, en parallèle, se servir de ce réseau-là, de ce réseau professionnel pour dire, ok, si vous mettez ensemble et si vous associez, vous pouvez monter une structure associative qui va pouvoir, de son côté, développer aussi d'autres formes d'activités parce qu'une asso, malgré tout, ça peut avoir accès à des équipements publics, ça peut avoir accès à des salles municipales, ça peut avoir accès à des subventions, ça peut avoir accès à des emplois aidés, etc., etc. Donc ça permet quand même pas mal de choses. Et souvent, le truc malin, c'est de penser les deux en même temps, quoi.
Plus l'activité, finalement, l'objet de ce qu'on veut créer est d'intérêt général, d'intérêt public en tout cas, plus on est quand même proche de la forme associative.
Tout à fait, c'est un des principes aussi, c'est ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de... Dans la mesure où on est sur des formes d'intérêt général, hein, très souvent, il y a une question autour de la lucrativité de ces activités-là. Des gens à qui on s'adresse, hein, ou les activités qu'on propose, peuvent difficilement être gérées sous forme entièrement marchande. En fait, c'est ça ce que ça veut dire derrière la question de l'intérêt général. Et donc, comme ces formes-là, elles ne peuvent pas être gérées de façon marchande, je prends par exemple quelqu'un qui veut faire du développement de liens sociaux, de proximité à partir de vélos, triporteurs. C'est un projet qu'on accompagne en ce moment pour travailler avec les personnes âgées, etc. On ne va pas faire payer des sorties en vélo, en triporteur, hein, à des personnes âgées qui sont isolées, qui n'ont pas forcément des grosses retraites, etc. Ça ne marcherait pas du tout. Donc du coup, on est vraiment dans un truc qui ne pourrait fonctionner que parce qu'il y a du bénévolat et des soutiens publics. Et les soutiens publics, ils sont apportés parce qu'on a un truc d'intérêt général, hein, pas ailleurs. Et le bénévolat, il nous intéresse de faire du bénévolat parce qu'on a le sentiment de servir une cause ou de servir la communauté. Donc c'est des moteurs en fait aussi l'intérêt général. Ça permet de ne pas confondre avec un service marchand et c'est des moteurs d'investissement public et d'engagement bénévole.
D'autres éléments importants à savoir avant de créer son association ?
Il faut prendre son temps, voilà, je pense. C'est des démarches qui peuvent... Les gens qui veulent créer leur activité dans un cadre associatif, c'est un petit peu comme quand on monte une société, avant de pouvoir générer son salaire, il faut un an ou deux ans. Voilà, ça se fait pas le jour où on a créé l'association et on a topé la subvention que directement on est sur un temps plein rémunéré, etc. en CDI. Ça prend énormément de temps à construire, donc il faut prendre ce temps-là, l'accepter et l'utiliser à bon escient et l'utiliser sur du collectif. Plus les porteurs de projets sont dans des démarches collectives, Plus on est entouré, plus on réfléchit à plusieurs cerveaux, moins on est dans des postures de responsabilité individuelle. On est bien sur des responsabilités de collectif, de groupe et de personne morale. Et voilà, ce qu'on dit souvent, c'est que tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Et ça a beau être un slogan un peu tarte à la crème, ça se vérifie très très souvent dans la création d'activités dans un cadre associatif.